Périscope, l'émission de littérature sous-marine, mais pas que. Bonjour. Au programme de Périscope, pour débuter une nouvelle année que nous vous souhaitons pleine de poésie, eh bien justement, une poète, Geneviève Bertrand. Alors, Geneviève Bertrand est une poète qui vit à côté de Marseille et qui y écrit. Donc, première question, pourquoi écrivez-vous ?
Je ne peux que répondre à cette question par la phrase de Saint John Perse qui se trouve affichée à l'entrée de ma porte dans ma pièce de travail et qui dit, à la question toujours posée, « Pourquoi écrivez-vous ? » La réponse du poète sera toujours la plus brève, « Pour mieux vivre ». Voilà, donc pour mieux vivre, ça veut dire du haut en bas de l'échelle, une écriture qui a une fonction thérapeutique pour expulser toute souffrance, pour exprimer toute joie, jusqu'à la verticalité de la prière, à la dimension cathartique et à l'engagement, disons, une façon d'être au monde.
Joli, donc c'est donc une posture et puis une posture qui implique un rapport au mot, plus qu'un rapport au monde, mais d'abord un rapport au mot.
Disons un rapport au monde qui passe par les mots, voilà. Qui est création d'un monde qui est celui du langage, à l'intérieur du langage, et qui se veut être une résonance et une voie d'accès à une certaine forme de réalité. Là, nous en reparlerons.
Donc tu as des mots que tu affectionnes particulièrement, tu fais ton petit catalogue de mots où tu laisses les mots surgir dans ton quotidien, dans ton observation, comment ça se passe ?
Si on parle, comment ça se passe ? Bon, ben, y a une histoire, bien sûr, de ce rapport à l'écriture. Le véritable déclencheur de l'écriture pour moi, ça a été il y a 25 ans le retour en Provence après ce que j'appelle l'exil parisien où j'ai appris beaucoup de choses mais où j'ai beaucoup souffert. Donc ce retour dans le midi, ça a été une joie. D'ailleurs, le premier recueil qui s'appelle « Saisons vives » veut exprimer cette joie. Le premier texte, c'est le titre « Heure de sel et de lumière ». Joie sauvage d'être là à nouveau dans l'absolue radiance de ce pays. Joie informelle qui se blesse aux limites de l'être. Donc c'est le retour dans le pays natal, pas tout à fait, juste à côté, puisque mon lieu natal c'est Montpellier. Et aussi la première maternité. Et c'est vrai qu'il y a, je pense, une relation profonde entre l'enfantement de l'écriture et l'enfantement biologique. D'ailleurs, cette première naissance a été l'occasion d'un recueil qui s'est maintenant épuisé, qui sera, j'espère, réédité un jour, qui s'appelle « Elle au pluriel »,« Elle la mère » et « Elle l'enfant ». Et l'écriture, c'est... Bon, je vais apprendre, rien apprendre à personne en disant que la poésie a à voir avec la création, hein, c'est créer. Donc, c'est la mise à jour, là, c'est donner jour, c'est mise au monde. Et ce travail d'écriture et de mise en voix, qui est parfois douloureux, comme un enfantement peut l'être, et même si c'est source de joie, j'ai essayé de l'exprimer dans un texte nommé « Voix incandescente » qui est apparu dans la revue Filigrane, qui est une revue d'écriture dont le siège est à Aubagne. Je vous lis juste un passage. « Voix tremblée qui délie le secret, délivre l'abîme, trace un passage jusqu'à l'été du jardin. Voix toujours nue, qui transgresse la pudeur du silence, laisse échapper le désir de l'autre, bascule dans le vertige du vide, se blesse à l'oreille sourde, se fait frôlement d'aile à la jointure de l'âme et du corps, donne chair à l'incandescence. Mots enfin articulés, qui prennent place dans la langue, langue maternelle, langue matricielle, matière originelle comme une argile informe. La voix marque ses coups dans la chair de l'aurore laiteuse, dans l'instant fragile qui advient à la vie. » Donc le texte, le thème de cette revue, c'était le passage de l'intime à l'extime, et c'est bien la naissance qui passe de l'intériorité à l'extériorité, de la vie secrète et cachée à la vie manifestée.
Oui, en même temps, écrire, c'est aussi oser sortir les mots de soi, oser les coucher sur le papier.
Oui. Et oser les dire.
Et oui, c'est dépasser cette peur, douleur.
Voilà.
Oui. D'ailleurs, ça c'est toute une part de ta poésie qui est l'intime, qui est plus développée, plus nourrie, plus travaillée peut-être, ou en tout cas plus développée dans tes textes. Il y a quelque chose de la recherche de soi aussi. Ce n'est pas seulement que sortir.
Tout à fait. Disons qu'il y a une évolution au fil du temps d'une écriture qui était plus descriptive au début et qui se fait plus intérieure au cours de mon histoire et de l'histoire de cette écriture, où j'ose plus m'impliquer. Mais donc effectivement, il y a les deux dimensions. Il y a ce travail intérieur, c'est une façon de travailler sur soi. Mais à un niveau, comme je disais au début, de la verticalité, c'est, à la même temps, c'est sortir de soi, mais du petit soi, des petites habitudes, des petites angoisses. Bon, on les met, on peut les coucher d'abord sur le papier, et après, ça permet d'aller au-delà, dans une autre dimension, qui est sa propre dimension, en relation avec le plus grand que soi, avec le grand univers, avec,
la falaise.
La falaise, par exemple.
Ça nous permet d'introduire un texte qui me plaît beaucoup, et que moi, j'avais trouvé, peut-être pas léger, mais en tout cas, j'avais vu un sourire. Et toi, tu me disais que, en fait, pas trop.
Un sourire, ben j'espère qu'il y en a toujours un,
hein, oui.
Parce que la poésie, il ne faut pas que ce soit, même si elle aborde des choses qui sont parfois douloureuses, parfois difficiles, elle essaie justement d'aller au-delà de ça et de trouver cette joie fondamentale de la vie. Hein. Donc effectivement, tant mieux si elle provoque un sourire.
Alors c'est un texte, c'est un poème qui s'appelle Autoportrait à la falaise.
Je sais la falaise, oui, je sais la falaise calcaire, lumière blanche éclatée sur le Rouvre, silence immense, minéral. Je sais la paroi abrupte, surface blessée, cicatrice sombre exposée au vent, falaise obstinée, tenace, nommée euphorbe, térébinthe. Je sais la roche calcaire, rugueuse, délavée par la pluie, épousée par le vent, pierre friable et grise, dissoute par l'acide d'une larme, reflet d'absolu, morcelé dans l'espace, chaos rocheux au profil disparate où l'homme a oublié d'habiter. Je sais la falaise, matricielle, secrète, abrupte, sauvage, falaise obscure qui enfante à l'aube un soleil humide et sanglant. Falaise engendrée du vide, habitée de rêves d'oiseaux, de lune embuée de nuit. La falaise a renversé le ciel au plus profond de mon regard, scruté mon profil d'eau en quête d'immobilité première, absorbé mon sang pour nourrir le forbe, frotter sa peau à la mienne jusqu'à dissoudre la limite, laissant seulement au creux du rocher une chair rose, là où le vent se fait murmure, chemin au long des failles. Peau parcheminée qui dit en silence l'histoire d'une attente, vert pâle et gris cendré.
Vous êtes toujours sur Périscope, sur les ondes de Radio Grenouille, et vous êtes toujours avec Geneviève Bertrand, poète de son état. Et nous en étions, juste avant la petite pause musicale, nous en étions à dissoudre la limite sur la falaise.
Oui, donc ce texte, je crois, illustre bien ce que j'essayais de dire tout à l'heure avec des mots. Il l'illustre avec... ces images de la poésie, avec ce passage de la contemplation de la falaise, avec ce qu'elle peut avoir de descriptif sur le rouvre, le forbe, les cicatrices. Et c'est un peu comme un mur de contemplation qui peut aboutir à un dépassement. Et cette fin du texte qui dit que la falaise a frotté sa peau à la mienne jusqu'à dissoudre la limite, c'est-à-dire il n'y a plus d'un côté moi, de l'autre la falaise, mais... Voilà cet état de présence au monde, hein, au-delà de la falaise, c'est le monde, le soleil qui se lève, la lune, le cycle, les rythmes. Et l'état profond de ce que je cherche et que j'essaie souvent d'exprimer dans la poésie, on a deux mots qu'on, en tant que documentaliste, je peux nommer mots-clés, qui sont le mot silence et le mot attente, qui sont les deux vers qui finissent ce texte. Peau parcheminée qui dit en silence, c'est l'histoire d'une attente. J'ai écrit un autre texte qui est paru aux éditions Encre Vive qui s'appelle Quintette. Non, c'est d'ailleurs c'est dans
celui-ci,
le même texte,
oui,
celui-ci.
Oui, oui.
Voilà, je ne savais plus dans lequel on l'avait retiré. Donc, dans ce texte, il y a cinq parties, qui sont pour moi cinq éléments, le feu, la terre, l'air, eau, et le cinquième, c'est le silence. C'est cette partie, c'est le silence, il est matriciel, c'est de là où germe le verbe, la présence, la créativité. Si on ne se recontacte pas à ce silence profond qui est par-delà les choses, voilà, pour moi c'est le lien fondamental avec ce silence qui est appelé silence végétal dans le dernier texte. Mais voilà... Et l'attente aussi, c'est la même chose, c'est cette façon d'être vigilant, d'être toujours, de ce que j'ai appelé dans certains textes, garder la faim. Et c'est vrai que je reprends complètement à mon compte un passage que j'ai trouvé dans un livre de Roberto Juarez, qui parle du visiteur qui jamais ne vient. Lui-même cite le Vishnu Purana. Et il parle de ces lignes de Roger Munier, donc c'est de citation à citation, mais auxquelles j'adhère totalement. J'attends, je n'attends vraiment, je n'attendrai jamais que le visiteur qui jamais ne vient. Cette attente est ce que je dis ici. Car le visiteur qui jamais ne vient peut et doit être attendu en tout. Il n'est réel qu'en cette attente, mais il est réel alors. Voilà. Donc, ma poésie, c'est beaucoup, et de dire cette attente-là, qui est cette réalité qui nous dépasse.
C'est une veine aussi qu'on retrouve dans ta poésie, c'est-à-dire l'attente dans le silence permet ou autorise, ou est un départ, ou une arrivée, on ne sait pas vraiment, mais a une forme de regard. Et du coup, il y a quelque chose de solaire. Et c'est dans des formes, ça, il me semble, dans des formes plus courtes, comme les haïkus. Il faut savoir observer et du coup être voyant. À mon avis, c'est le silence qui fait que le poète va être voyant et voir à travers les correspondances.
C'est vrai que c'est ce passage, c'est de dire de l'événement, ou qui peut être la falaise, à l'avènement de ce silence, d'une présence, de ce que Maldiné peut appeler la nu-présence, de ce que François Cheng appelle ce vide premier, qui est la matrice première dans le taoïsme. Voilà, et c'est peut-être que la voyance, c'est ça, c'est au-delà de cette réalité première qui est là, qui est fondamentale et qui est incontournable, mais au-delà de ça, saisir cette autre dimension qui l'habite et la fait vibrer.
C'est alors un petit aperçu de ce que j'aime bien particulièrement.
Ça a été notre premier contact.
Voilà. Hein. Alors, au seuil du porche, l'amandier en prière, fiancé couronné. Voilà, moi j'entends des sourires. Je n'entends pas de son, il n'y a pas les oiseaux qui chantent derrière, mais j'entends des sourires. Voilà, une forme de posture, d'être au monde. On y revient. Il y a celui-là aussi que j'aime bien. Pétale immaculée, un iris mouillé de nuit, prière végétale. Voilà, il y a une forme d'instantané,
alors c'est de fulgurance. Tout à fait, le haïku par définition, c'est vraiment ce là où la forme d'écriture, où le silence a presque plus d'importance que ce qui est dit, que le blanc est aussi important. Enfin, l'écriture sert à faire mettre en valeur le blanc. C'est vrai que cette rétraction des mots, la charge d'autant plus, on n'est pas dans l'esthétique du tout, on est justement dans essayer de faire surgir cette vibration et cette fulgurance, comme tu dis.
Alors, nous espérons bien vous avoir touché par cette poésie solaire. Le réel problème, après avoir osé écrire et poser les mots sur le papier, le réel problème de la poésie, c'est l'édition, la diffusion. Alors, comment faire? D'autant plus en province. Comment faire? Comment est-ce que toi, tu as fait? Moi, j'ai quelques idées. C'est que je me dis qu'il y a aussi des champs d'éditions, de petites revues, de petites entreprises.
Oui, c'est souvent comme... Enfin, c'est toujours d'ailleurs comme ça qu'on commence. C'est-à-dire qu'il y a il y a des centaines de revues de poésie qui sont plus ou moins clandestines, qui sont sous-marines, dirons-nous.
Voilà.
Le mot est lâché. Et qui existent pourtant, qui sont diffusées dans un monde de poètes. Et on commence en général par publier, contacter certaines revues localement, enfin à Montpellier, je participe à la revue Souffle, il y a la revue Autre Sud à Marseille. Donc je ne vais pas toutes les citer, bien évidemment, je vais parler de celles auxquelles je collabore plus particulièrement, comme la revue Souffle de Montpellier, la revue Filigrane déjà citée à Aubagne, la revue Autre Sud à Marseille, voilà. Donc de nombreuses revues, et après il y a la tentative d'envoyer à des éditeurs ou de participer à des concours. Alors là aussi, il y a une multitude d'éditeurs. Bon, je renvoie au marché de la poésie à Paris. Vous avez la liste qui fait des pages et des pages, mais ils sont tous plus débordés les uns que les autres. Et la difficulté, c'est beaucoup la diffusion, parce que la poésie ne se vend pas tellement, beaucoup moins que les romans policiers.
Oui.
Que je ne critique pas d'ailleurs.
Non, du tout, mais ce n'est pas la même attention à l'objet livre. Voilà,
une autre démarche.
Je renvoie à une publication, les haïkus donc se trouvent dans le recueil Brûlure du silence, aux éditions Encre et Lumière, avec des encres de Laurent Cabrol. Donc effectivement, ça ne se diffuse pas et ça ne se vend pas comme des polars en poche.
J'en profite juste pour dire que Laurent Cabrol est un peintre que j'aime beaucoup et qui va juste faire une exposition en ce moment à Marseille, à la galerie Sordini, exposition qui commence ce jour, mercredi.
Super, voilà.
Donc je vous conseille d'aller voir cette exposition.
Voilà. Donc à Marseille, il y a aussi des choses, et même sur le net, puisque tu as rencontré des gens comme le Scriptorium.
Oui, donc ce qu'on disait sur la diffusion, c'est que bien sûr la diffusion en librairie, donc je voulais quand même signaler que mes livres se trouvent dans l'essentiel à Librairie Vent du Sud à Aix, qu'on peut commander ce que l'on veut avec les, comme toute libraire peut commander en ayant les références, donc je ne vais pas les donner maintenant, mais...
Puis on le retrouvera sur
voilà,
le site aussi.
Voilà, il y a le site de Élise Poésie, hein, où se trouve toute la bibliographie, il suffit de taper sur Élise Poésie, d'aller sur l'onglet poète. Dans le site de la revue Filigrane, revue d'écriture Filigrane avec un S, on peut retrouver une interview dans ce qu'ils appellent les cursives, qui reprend tout ce que je viens de dire et encore en plus développé. Et puis il y a quelques citations de textes que j'ai écrits dans le blog du Scriptorium, qui est une association de poésie qui existe sur Marseille, au Vallon des Offes.
Voilà, donc tout ça, c'était pour débuter une belle année en poésie. Et pour conclure, notre dernière question. Alors, non, simplement, il y a encore peu de temps, tu définissais la poésie comme un supplément d'âme. Est-ce que tu étais toujours d'accord avec ça?
Oui, ça, au début de 2010, oui. Je continuerai à dire que la poésie est un supplément d'âme et permet de mieux vivre, pour revenir à notre commencement de Saint John Perse.
Bon, eh bien, nous allons nous quitter sur ces mots, peut-être sur un dernier texte,
Un haïku,
hop,
alors,
allez,
pour que ce soit...
Voilà. Voilà.
Écoute, les haïkus sont toujours normalement dans la tradition en lien avec les saisons. Donc, je lirai un haïku d'hiver. Fixe de l'hiver, gris de l'âme à fleur de ciel, trois fils des tourneaux. Et un haïku qui va peut-être au-delà de l'immédiateté du froid. Moment de grand froid où l'obscurité se fait sur la force des choses.
Eh bien, bonne lecture et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.